Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 7 février 2022 à 19 h. Je vais faire une lecture de l'ordre du jour. En point 1, j'ai l'adoption de l'ordre du jour. En point 2, j'ai l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022. En point 3, l'adoption des listes comptes payés et à payer au 31 janvier 2022. En point 4, rapport du maire fait saillant du rapport financier 2020. En point 5, annonce d'un audit de conformité, délai de transmission du rapport financier, Commission municipale du Québec. En point 6, avis de motion, règlement numéro 139, intitulé règlement numéro 139 concernant le code d'éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux de la municipalité de Sainte-Félicité en remplacement du règlement numéro 125. En point 7, il va y avoir le dépôt du dit règlement numéro 139. En point 8, le dépôt de la lettre du ministre des Affaires municipales de l'Habitation pour le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, le PRABAM, à d'aide maximale de 98 303. En point 9, l'approbation budget 2022 de l'Office d'habitation de la Matanie, numéro d'ensemble immobilier numéro 2273. En point 10, campagne provinciale, ville et municipalité contre le radon 2021-2022, Association pulmonaire du Québec. En point 11, appui de dossier de financement de travaux sylvicoles dans le cadre de l'épidémie de la tordeuse du bourgeon d'Épinette. En point 12, adoption du rapport de l'an 5, schéma de couverture de risque en matière de sécurité et incendie de la MRC de la Matanie. En point 13, demande d'autorisation de fin autre qu'à l'agriculture à la CPTAQ par monsieur Émilien Simard pour les lots visés du 3 169 160 et le 3 169 109 du CADAS du Québec. En point 14, une demande d'aide financière au député monsieur Pascal Bérubé pour un projet de travaux d'asphaltage saison estivale 2022. En point 15, autorisation pour un prélèvement d'eau souterraine pour alimentation en eau potable des puits municipaux et construction d'une nouvelle usine de traitement d'eau potable de la municipalité de Saint-Félicité émis par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. En point 16, l'adhésion à l'Association des professionnels en loisirs municipaux du Bas-Saint-Laurent, le APLM du PSL. En point 17, demande de terrain 45 par 40 par le club de Phoenix de Saint-Félicité. En point 18, demande de cession en regard d'une partie de l'emprise de la route 132 par Mme Esther Otis et M. Alain Girard. En point 19, compte rendu des représentants municipaux sur les organismes de Saint-Félicité. En point 20, divers. En point 20A, formation des élus FQM. En B, liste des arrérages des taxes. En point C, demande de soumission et installation pour l'installation d'un abri d'hiver pour le bureau municipal. En point D, demande CPTAQ par M. Pierre Simard. En point E, rencontre de travail du conseil municipal pour certains dossiers à traiter. En point 21, nous avons la levée de la séance ordinaire. Juste avant l'adoption de l'ordre du jour, pour la vérification du quorum, si vous pouvez vous nommer par numéro de siège, s'il vous plaît.
Poste numéro 1, Christine Pelletier.
Christine Pelletier.
Numéro 2, Joanne Dion.
Merci, Joanne.
Numéro 3, Réginald Desrosiers.
Merci, Réginald.
Numéro 4, Joanne Deschaine.
Merci, Madame Deschaine.
Numéro 5, Jean-Sébastien Lefrançois.
Merci, Jean-Sébastien.
Fidelio numéro 6, Thierry, numéro 6.
Merci, Fidelio. Donc, sous la présidence d'Andrew Turcotte, maire de la municipalité, et Monsieur Yves Chassé qui agit comme secrétaire. Ensuite, on va poursuivre avec le point 1, l'adoption de l'ordre du jour. Ça va me prendre une proposition.
Proposé.
Proposition de Christine, est-ce que c'est unanime?
Oui.
Oui.
Parfait, merci. Ensuite, en point 2, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2022.
Proposé. Original.
Position de Réginal, tout le monde en a pris connaissance. C'est
Oui.
conforme.
Oui.
Donc, c'est unanime. Ensuite, en point 8, adoption de la liste compte payé et à payer au 31 janvier 2022. Est-ce que Yves, tu peux nous en faire un court résumé, s'il te plaît?
Oui, on a des déboursés pour 140 811 et 91, des salaires pour 11 810 et 30, pour un grand total de 152 622 et 21.
Est-ce que tu veux nous donner
Et
les grosses dépenses, s'il te plaît?
autres que les dépenses courantes, c'est sûr qu'on a au niveau de réparation du Western, du camion Western, puis du New Holland 2007 pour un montant de 6 101 et 81. Ensuite de ça, on a l'entretien du New Holland aussi, la Coop Purdel division pour un montant de 2 524 et 69. On a aussi entretien encore du Western pour un montant de 2 787,95. On a excavation Émilien Simard pour des travaux de voirie et aussi abrasif pour un montant de 4 669,97. On a la MRC de la Matanie pour le premier montant de code-part au niveau incendie, un montant de 60 937,57. On a PG Solutions Incorporées pour notre contrat informatique annuel pour un montant de 9 065,79, pour un grand total de 152 622,21, incluant les salaires.
On prend une proposition.
Je vais proposer Joanne Deschaine.
Proposition de Joanne Deschaine. Est-ce que c'est unanime?
Oui.
Oui.
Parfait, merci. Ensuite, en point 4, on a le dépôt du rapport du maire pour les faits saillants du rapport financier 2020. On prend une proposition. Tout le monde en a pris connaissance. On prend une proposition pour le dépôt.
Avant le dépôt, M. le maire, il va en donner lecture.
Ah, je vais vous en donner une lecture.
Pour que ça figure.
Quelques instants. Voilà. On va tracer mon fichier. Et non, le rapport est ici. Donc, rapport du maire fait saillant du rapport financier 2020. En vertu de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, M. le maire Indo Turcotte fait rapport des faits saillants du rapport financier 2020. Donc, en revenus en taxes, nous avons 889 822. Compensation tenant lieu de taxe 19 587, en transfert 308 705, service rendu 10 557, imposition des droits 15 500, amende et pénalités 600 $, autres revenus d'intérêt 7 400 $, autres revenus 29 603, pour un total de revenus de 1 281 774. Ensuite, dans les dépenses. Administration générale, 278 668. Sécurité publique, 231 743. Transport, 288 655. Hygiène du milieu, 266 346. Santé et bien-être, 10 712. Aménagement, urbanisme et développement, 43 957. Loisirs et culture, 100 914. Frais de financement 4 874 pour un total de dépenses de 1 225 869. Affectation, bien sûr, est à 0 $. L'exercice financier 2020 s'est soldé par un excédent de 142 633 $. Surplus non affecté au 31 décembre 2020, 142 633 $. Surplus réservé au 31 décembre 2020. 190 267. Fonds de roulement au 31 décembre 2020, 22 000 $. Fonds de TPI au 31 décembre 2020, 6 154. Fonds de carrière et salaire au 31 décembre 2020, 16 743. Fonds de parc et terrain de jeu au 31 décembre 2020, 2 434 $ pour un total d'excédent de 380 231. Outre le maintien des opérations régulières de la municipalité, l'exercice financier est marqué par les restrictions au niveau de la COVID, du COVID-19. Les travaux d'asphaltage réalisés par les parages des monts au montant de 82 645,94. Les services professionnels pour la préparation de plans et d'avis pour la construction de l'usine d'eau potable au montant de 320 952,71. Les travaux de grédage et de broyage de fossés réalisés par Émilien Simard et Incorporé au montant de 64 227,70. C'est signé par Andrew Turcotte, maire de la municipalité de Sainte-Félicité. Donc, ça va prendre une proposition.
Je vais proposer Jean-Sébastien Lefrançois.
Je vais prendre la proposition de M. Fidelio Simard qui est au téléphone. Je m'excuse, Sébastien, ça sera la prochaine. Donc, c'est unanime?
Oui.
Oui.
Parfait, merci. Ensuite, en point 5, nous avons l'annonce d'un audit de conformité pour le délai de transmission du rapport financier pour la Commission municipale du Québec. Yves, ça, c'est un dépôt ou tu veux que j'en fasse lecture?
On fait juste un dépôt, mais on peut dire, par exemple, les grandes lignes par rapport aux résultats validés. C'est le rapport financier, la transmission pour l'exercice financier 2016 était non conforme. 2017, il était non conforme. 2018, il était conforme. 2019, il était conforme. Puis 2020, il était non conforme. Suite à ça, le ministère, c'est-à-dire la commission municipale, nous a avait fait la vérification pour nous informer que l'exercice financier 2017 y était conforme. Fait que là, on fait juste un dépôt.
Donc, ça prend une
Puis en principe, on va préciser aussi, Endo, aux gens que la transmission du rapport financier va être transmise dans le délai. C'est ce qu'on va recommander au vérificateur qui est Raymond Chabot, Gwen Thornton.
Oui, parce qu'on répond des délais des vérificateurs financiers et non, c'est pas une non-conformité de la municipalité, mais le délai supplémentaire donné par les vérificateurs financiers. Donc, ça va me prendre une proposition pour le dépôt?
Moi, je vais proposer Jean-Sébastien Lefrançois.
Proposition de Jean-Sébastien, ça convient à tous, c'est unanime?
Oui.
Parfait, merci. Ensuite, en point 6, nous allons avoir l'avis de motion pour le règlement numéro 139, intitulé règlement numéro 139 concernant le code d'éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux de la municipalité de Saint-Félicité en remplacement du règlement numéro 125.
Ça prend quelqu'un qui va donner l'avis de motion, Andrew?
Oui, ça me prend une proposition pour l'avis de motion, puis la présentation va être faite en point 7.
Oui. Qui donne l'avis de motion?
Christine.
Oui. L'avis de motion est donné par Christine. Parfait, merci. Ensuite, en point 7, le dépôt et la présentation du projet de règlement numéro 139, intitulé le règlement numéro 139 concernant le code d'éthique et déontologie applicable aux élus municipaux de la municipalité de Saint-Félicité, en remplacement du règlement numéro 125. Donc, avant proposition, nous allons avoir une lecture du dit règlement par M. Desrosiers.
OK. Commence, attendu que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Félicité a adopté le 6 août 2018 un règlement numéro 125 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus. Attendu qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, RLRQCE 15.1.0.1, ci après la LEDMM, toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie revisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Entendu qu'une élection générale s'est tenue le 7 novembre 2021, attendu que l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives LQ 2021-C31, laquelle modifie le contenu obligatoire du code d'éthique et de déontologie des élus. Entendu qu'il y a lieu, en conséquence, d'adopter un code d'éthique et de déontologie des élus revisé. Entendu que la formalité prévue par la LEDMN pour l'adoption d'un tel code révisé ont été respectées, attendu qu'un élu municipal mentionne que le présent règlement a l'objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité de Saint-Félicité en matière d'éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou en qualité de membre du conseil de la municipalité ou d'autres organismes, attendu que la municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d'éthique et aux règles déontologiques prévues par la LEDMM, ainsi que dans le présent code. Attendu que l'éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la municipalité et les citoyens, attendu qu'une conduite conforme à l'éthique et à la déontologie municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres du conseil afin d'assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la municipalité, incluant les fonds publics. Attendez, je vais défiler un peu les fonds publics. Attendu qu'appliquant les valeurs en matière d'éthique et en respectant les règles déontologiques prévues à ce code, chaque membre du conseil est à même de bien remplir son rôle en tant qu'élu municipal, d'assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes des citoyens. Attendu que le Code contient les obligations ainsi que les balises permettant d'orienter la conduite de chaque membre du Conseil tout en laissant le soin à ce dernier d'user de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues, attendu que le Code vise à identifier, prévenir et éviter la situation de conflit d'intérêts, attendu que tout manquement à ce Code peut entraîner des conséquences graves pour la municipalité et les membres du Conseil, attendu qu'il incombe à chaque membre du Conseil de respecter ce Code pour s'assurer de rencontrer le standard élevé d'éthique et de déontologie en matière municipale. En conséquence, il est proposé par Christine Pelletier et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'adopter le règlement suivant. Règlement 139 intitulé « Règlement 139 concernant le code d'éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux de la municipalité de Sainte-Félicité en remplacement du règlement 125. Dispositions déclaratoires et interprétatives. À titre du présent règlement, un règlement numéro 139 intitulé Règlement numéro 139 concernant le code d'éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux de la municipalité de Sainte-Félicité en remplacement du règlement 125. Le préambule fait partie intégrante du présent code. Le code ne se situe pas aux lois et règlements en vigueur et qui régissent la municipalité et de façon plus générale le domaine municipal. Il est plutôt supplétif et complète les diverses obligations et les devoirs généraux applicables aux élus municipaux qui sont prévus dans la loi et les autres règlements applicables. Ainsi, le code ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions contenues dans la loi et règlements en vigueur qui régissent la municipalité, les élus municipaux et de façon plus générale le domaine municipal. Article 2. Interprétation. Le présent code doit être interprété selon les principes et les objectifs contenus à la LEDMM. Les règles prévues de cette loi sont réputées faire partie intégrante du présent code et prévalent sur toute règle incompatible énoncée à ce code. Dans le présent code, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes suivants s'appliquent. Avantage, de nature pécuniaire ou non, constitue notamment un avantage ou cadeau, don, faveur, récompense, service, gratification, marque d'hospitalité, rémunération, rétribution, gain indemnité, privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, etc. Code. Le règlement numéro 139-1, le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Conseil. Le conseil municipal de la municipalité de Sainte-Félicité. Déontologie. Désigne l'ensemble des règles et des devoirs qui régissent la fonction des membres du conseil, leur conduite, le rapport entre ceux-ci, ainsi que les relations avec les employés municipaux et le public en général. L'éthique réfère à l'ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite des membres du conseil. L'éthique tient compte de la valeur, des valeurs de la municipalité. Intérêt personnel. Un tel intérêt est lié à la personne même que l'élu ou il est de celui de la collectivité qu'il représente. Membre du conseil, élu de la municipalité, un membre d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou membre du conseil d'un autre organisme municipal lorsqu'il est, y siège en sa qualité de membre du conseil de municipalité. La municipalité de Sainte-Félicité, organisme municipal, le conseil. Le conseil, tout comité ou toute commission. Premièrement, un organisme de la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité d'un organisme dont le conseil est composé majoritairement des membres du conseil dont le budget est adopté par la municipalité et dont le financement est assuré pour plus de la moitié de celle-ci. d'un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de plusieurs municipalités. De tout autre organisme déterminé par le ministère des Affaires municipales et de l'habitation. Change de page. C'est long. Le présent code, et plus particulièrement les règles énoncées de celui-ci, guide la conduite de tout membre du conseil. Certaines règles prévues au présent code s'appliquent également après le mandat de toute personne qui a été membre du conseil.
Peut-être juste, là, je vais juste interrompre, Réginal, là. Peut-être juste, là, Yves, là, on pourrait juste y aller avec les articles, là, y aller avec l'article 4, c'est les valeurs. Après ça, on pourrait juste lire la fin parce que sinon, c'est une
fête. C'est parce qu'il faut qu'il soit lié au complet, c'est le code d'éthique.
Oui, mais on en passe des fois en dispensation de lecture parce que là, l'article 5, là, il est long. Hein?
Il est long. Je
ne
suis pas rendu à moitié encore.
Ouais, en tout cas.
Moi, si tous les membres du conseil sont d'accord avec une dispensation de lecture des articles en entier, moi, je suis prêt à y aller comme ça. Là.
Mais ceux qui écoutent la séance, ils ne l'entendront pas.
Ben, c'est ça. Puis le règlement, il faut qu'il soit lié au complet.
Je ne sais pas trop, on peut le lire au complet, moi.
C'est oui, ça. Oui, parce que sinon, je vous l'aurais dit. Malheureusement pour toi, Réginal.
Ben là, je suis parti. Là. Oui. Pas le valable. Valeur de la municipalité en matière d'éthique. Intégrité des membres du conseil. L'intégrité implique de faire preuve de probité et d'une honnêteté au-dessus de tout soupçon. Honneur attaché aux fonctions des membres du conseil. L'honneur exige de rester digne des fonctions confiées par les citoyens. Prudence dans la poursuite de l'intérêt public. La prudence commande que tout membre du conseil d'assurer ses responsabilités face à la mission d'intérêt public qui lui incombe, de façon objective et avec discernement. La prudence implique de se renseigner suffisamment et de réfléchir aux conséquences de ses actions et d'examiner les solutions alternatives. L'intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand bien de la collectivité et non à l'avantage d'intérêts privés ou personnels au détriment de l'intérêt public. Le respect et civilité envers les autres membres du conseil de la municipalité, les employés et de celles de ci et les citoyens. De façon générale, le respect exige de traiter toutes les personnes avec égard et considération. La civilité implique de faire montre de courtoisie, politesse et de savoir-vivre. Loyauté envers la municipalité. La loyauté demande de s'acquitter de ses fonctions dans le meilleur intérêt de la municipalité, des objectifs et indépendance d'esprit. Elle implique de faire abstraction de ses intérêts personnels et de divulguer en toute transparence comment aux règles applicables. De plus, la loyauté implique de respecter les décisions prises par le conseil. Recherche et de l'équité. L'équité implique de faire preuve d'impartialité, soit d'avoir une conduite objective et indépendante et de considérer les droits de chacun. L'équité exige de ne faire aucune discrimination. Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la municipalité dans l'appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables. Lorsque les valeurs sont intégrées à l'article 5 du présent code, celles-ci doivent, en plus de guider la conduite des membres du conseil, être respectées et appliquées par celles-ci. Règles de conduite et interdiction. Les règles de conduite ont notamment pour objectif de prévenir toute situation où l'intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions. Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance et autres inconduites. Toute inconduite portant atteinte à l'honneur, à la dignité et à la fonction d'élu municipal. Règles de conduite et interdiction, les membres du conseil doivent se conduire avec respect et civilité. Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon irrespectueuse ou incivile envers les autres membres du conseil municipal, les employés municipaux, les employés municipaux, les citoyens par l'emploi notamment de paroles, d'écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants ou de toute forme d'incivilité de nature vexatoire. Plus particulièrement, tout membre du conseil doit faire preuve de civilité et de courtoisie dans ses échanges et ses communications, incluant celles sur le web et les médias sociaux. Respecter la dignité et l'honneur des membres, des autres membres du conseil, des employés municipaux et des citoyens. Tout membre du conseil doit s'engager dans un dialogue franc et honnête avec les autres membres du conseil afin d'en arriver à une décision éclairée. Tout membre du conseil doit respecter le décorum lors d'une séance publique ou privée du conseil municipal. Notamment, les membres du conseil doivent respecter les directives du président de l'Assemblée. Dans ses communications avec les employés municipaux, les partenaires de la municipalité, les citoyens, les médias et le public en général, le membre du conseil ne peut utiliser sa fonction ou son titre afin de laisser croire qu'il agit au nom de la municipalité, sauf dans le cas où une résolution ait dûment été adoptée à cet effet par le conseil municipal. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas au maire qui agit dans le cadre des pouvoirs spécifiques qui lui sont dévolus par la loi. Les membres du conseil doivent se conduire avec honneur. Il est interdit à tout membre du conseil d'avoir une conduite portant atteinte à l'honneur et à la dignité des fonctions d'élu municipal. Tout membre du conseil doit prendre les moyens raisonnables pour assister aux séances publiques et aux séances privées du conseil municipal. Il est de même lorsqu'il représente la municipalité lors de différentes réunions ou d'événements. Il est interdit à tout membre du conseil d'effectuer une dépense en contravention avec la loi sur le traitement des élus municipaux, RLQ CT 11001, et de tenter de se faire rembourser de telles dépenses. Dans le cadre de ces déplacements et de ces dépenses impliquant un remboursement de la part de la municipalité, tout membre du conseil doit autant que possible en limiter les cas à ce qui est raisonnable dans les circonstances. Je change de page, je ne vois pas le bout, dans les circonstances. Conflit d'intérêts. Tout membre du conseil doit éviter de se déplacer sciemment dans une situation où il est susceptible de devoir faire un choix entre, d'une part, son intérêt personnel et d'une autre personne, ou d'autre part, celui de la municipalité ou d'un autre organisme lorsqu'il siège en sa qualité de membre du conseil. Tout membre du conseil doit faire preuve d'impartialité et d'équité. Il ne peut faire preuve de favoritisme, notamment à l'égard de fournisseurs de la municipalité. Tout membre du conseil doit être indépendant d'esprit et avoir un jugement objectif sans intérêt personnel, de manière à prendre les meilleures décisions pour la municipalité. Le membre du conseil qui constate l'existence d'un conflit d'intérêt ou en est avisé doit prendre les moyens pour y mettre fin et de le plus tôt possible à partir du moment où il en a connaissance. Tout membre du conseil doit prévenir et éviter des situations dans lesquelles il risque de subir de l'influence indue quant à une décision qui est susceptible de favoriser son intérêt personnel ou d'une manière abusive ceux de toute autre personne. Tout membre du conseil doit s'assurer en tout temps que ses activités autres que celles liées à la fonction d'élu n'entre pas en conflit avec l'exercice de ses fonctions d'élu municipal. On va prendre un petit peu d'eau. D'élu municipal. Il est interdit à tout membre du conseil d'agir de façon à favoriser dans l'exercice de ses fonctions ses intérêts personnels ou d'une manière abusive ceux de toute autre personne. Il est interdit à tout membre du conseil de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d'influencer la décision d'une autre personne de façon à favoriser les intérêts personnels ou de manière abusive ceux d'une autre personne. Il est interdit à tout membre du Conseil de contrevenir à l'article 304 et 361 de la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité. Dans les municipalités RLRQ CE 2.2, sous réserve des exceptions prévues à l'article 305-362 et de cette loi. Exception et sollicitation d'avantage. Lorsqu'un membre du Conseil représente la minorité ou un événement et qu'il reçoit un prix de présence ou un avantage quelconque sans que le membre du Conseil ait eu à débourser personnellement de participation pour le recevoir, celle-ci doit le remettre à la municipalité, laquelle décidera comment en bénéficier et en disposer. Il est interdit à tout membre du Conseil de solliciter, de susciter, d'accepter ou de recevoir pour lui-même ou pour une autre personne quelques avantages que ce soit en échange d'une prise de position sur la question dont le Conseil, un comité ou une commission dont il est membre peut être saisi. Il est interdit à tout membre du Conseil d'accepter tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, quel que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur de biens et de services et qui peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. Tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil municipal et qui n'est pas de nature purement privée ou visé par l'article 5.2.4.2 doit, lorsque la valeur excède 200 $, faire l'objet dans les 30 jours de sa réception d'une déclaration écrite par ce membre auprès du greffier trésorier de la municipalité. Cette déclaration doit contenir la description adéquate du don et la marque d'hospitalité ou de l'avantage reçu et préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. Le membre du conseil ne doit pas utiliser des ressources de la municipalité. Un membre du conseil ne peut transmettre à un employé municipal ou à un tiers d'utiliser des ressources, ne peut permettre à un employé municipal ou à un tiers d'utiliser les ressources de la municipalité ou tout autre organisme municipal lié à la municipalité à des fins personnelles, à moins qu'il ne s'agisse d'un service ou d'une activité qui est offerte de façon générale par la municipalité. Il est interdit à un membre de détourner à son propre avantage ou à l'avantage d'un tiers un bien ou une somme d'argent appartenant à la municipalité. Il est interdit à tout membre du conseil d'utiliser les ressources de la municipalité ou de tout organisme municipal au sens du présent code à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l'exercice de ses fonctions. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas lorsqu'un membre du conseil utilise à des conditions non préférentielles une ressource mise généralement à la disposition des citoyens. Renseignement privilégié. Il est interdit à tout membre du conseil d'utiliser, de communiquer ou de tenter d'utiliser ou de communiquer tant pendant son mandat qu'après celui-ci des renseignements obtenus dans l'exercice de l'occupation de l'exercice de ses fonctions, ce qui sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. Il est interdit à tout membre du conseil d'utiliser, de diviser de son propre avantage à son propre avantage ou à l'avantage d'un tiers, une information qu'il détient et qui ne serait pas autrement disponible par le conseil municipal que le conseil municipal n'a pas encore divulgué. Alors, je vais me réajuster. Un membre du conseil ne peut divulguer de quelque façon que ce soit directement ou indirectement l'opinion émise en séance privée par un autre membre du conseil ou toute autre personne y participant. Tout membre du conseil doit faire preuve de prudence dans ses communications, notamment sur le web, les médias sociaux, afin d'éviter de divulguer directement ou indirectement une information privilégiée et ou qui n'est pas de nature publique pour des fins de la présente section et sans limiter la généralité de ce qui précède sont notamment, mais non limitativement considérées comme des informations privilégiées. Les renseignements qui ne sont pas de nature publique, les documents et les renseignements qui peuvent être divulgués ou dont la confidentialité doit être assurée en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics ou sur la protection des renseignements personnels. RLRQCA-2.1, les discussions tenues lors des séances privées et tout ce qui est protégé par le secret professionnel tant que la municipalité n'y a pas renoncé dans ce dernier cas. L'après-mandat. Il est interdit à tout membre du conseil dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, d'un emploi ou d'une autre fonction de telle sorte que lui-même et toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil de la municipalité. Annonce lors d'une activité de financement public. Il est interdit à tout membre du conseil de faire l'annonce lors d'une activité de financement public de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de quoi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Ingérence. Les membres du conseil ne peuvent s'ingérer dans l'administration quotidienne de la municipalité, donner des directives aux employés municipaux, autrement qu'à l'occasion d'une prise de décision en séance publique du conseil municipal. Dans un tel cas, les directives sont mises en application auprès des employés municipaux par la direction générale. Il est entendu que le membre du conseil qui est membre d'un comité ou d'une commission formée par le conseil municipal et qui est mandaté par le conseil municipal pour représenter la municipalité dans un dossier particulier peut toutefois devoir collaborer avec la direction générale et les employés municipaux. Cette collaboration est limitée au mandat lui ayant été attribué par le conseil municipal. En aucun cas, présente disposition ne peut être appliquée ou interprétée de manière à limiter le droit de surveillance, d'investigation ou de contrôle du maire lui étant révolu en vertu de la loi. Tout membre du conseil doit transmettre les plaintes qu'il reçoit au directeur général de la municipalité qui fera le suivi approprié. Si les plaintes visent le directeur général, il les réfère au maire. Mécanisme d'application de contrôle et sanctions. Sachez, les mécanismes d'application et de contrôle du présent code sont ceux de la LEDMM. Un manquement à une règle prévue au présent code par un membre du conseil de la municipalité peut entraîner l'imposition de sanctions prévues à, ça doit être la LEDMM, soit une réprimande, la réprimande, la participation à une formation sur la déontologie en matière municipale aux frais du membre du conseil dans le délai prescrit par la Commission municipale du Québec, une remise à la municipalité dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale du Québec, un don de la marque d'hospitalité et de l'avantage reçu et de la valeur de ceux-ci, tout profit retiré d'une contravention à une règle énoncée du présent code. Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue pour la période de commission déterminée que la commission détermine comme membre du conseil d'un comité ou d'une commission municipale ou d'un organisme. Une pénalité du montant maximal de 4 000 devant être payée à la municipalité. La suspension du membre du conseil pour une période d'une durée ne peut excéder 90 jours. Cette suspension doit avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat et est réélu lors de la réélection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n'est pas terminée le jour où débute son nouveau mandat. Lorsqu'un membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer aucune fonction liée aux charges de maire ou de conseiller et notamment, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité ou en sa qualité de membre du conseil de la municipalité d'un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme que la municipalité ou de la municipalité ou d'un tel organisme. Remplacement. Le présent règlement remplace le règlement numéro 125 intitulé règlement concernant le code d'éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux de la municipalité de Sainte-Félicité en remplacement du règlement numéro 124. Toute mention et référence à un code d'éthique et de déontologie des élus est, que ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, un contrat, etc., est réputé faire référence au présent règlement. Article 8, entrée en vigueur. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Présentation du projet de règlement le 7 février 2022. L'avis de motion le 7 février 2022. L'adoption le 7 mars 2022. La promulgation le 8 mars 2022. L'entrée en vigueur le 8 mars 2022. Et la transmission au ministère des Affaires municipales le 8 mars 2022. Andrew Turcotte, maire, Yves Chassé, directeur général, et secrétaire d'aujourd'hui. Et voilà.
Un gros merci, général. Peut-être une petite correction, Yves, c'est la transmission, c'est pour MAMO, mais c'est au MAMH, M-A-M-H.
Oui. Voilà. Habitation.
Yes. Fait que ça me paraît une proposition pour le dépôt.
Joanne, la
Et c'est unanime?
Oui.
Oui.
Parfait. Ensuite, j'ai le dépôt de la lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation pour le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, le PRABAM, l'aide financière de 98 303. Je vais en faire une lecture. Une lettre qui a été reçue par courriel, malheureusement, qui a été égarée, donc elle est datée du 21 juin 2021. Adressé au maire, M. Andrew Turcotte, municipalité de Sainte-Félicité, case postale 220.
Peut-être préciser qu'il a été égaré d'un courriel et non au bureau municipal, Andrew.
Non, c'est un courriel qui est malheureusement, le courriel a été égaré dans les boîtes de courriel. Ça a dû passer dans un courriel désirable ou je ne sais pas trop, là, mais en tout cas, on l'a récupéré. Donc, l'adresse s'est adressée à M. le maire. En mars 2021, le gouvernement du Québec a présenté le plan d'action pour le secteur de la construction qui vise à tirer pleinement profit du plan québécois des infrastructures et à relancer l'économie dans le contexte où elle a durement été touchée par la pandémie. Une des mesures de ce plan consiste à mettre en place un programme doté d'une enveloppe de 90 millions visant à accorder une aide financière aux municipalités de 5 000 habitants et moins pour leur permettre de réaliser rapidement des travaux à leurs bâtiments municipaux. Ainsi, je suis heureuse de vous informer que la municipalité pourra bénéficier d'un montant maximum de 98 303 dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, le PRABAM. Les travaux admissibles visent les infrastructures suivantes, un hôtel de ville, une caserne de pompiers, un garage, un entrepôt municipal, ainsi qu'un centre ou une salle communautaire. Pour être admissibles, les travaux devront être réalisés entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2023. La municipalité est invitée à prendre connaissance de l'ensemble des modalités du programme à l'adresse suivante. C'est l'adresse du mamash.gouv.qc.ca /infrastructure/programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux PRABAM. Donc, c'est par ailleurs le gouvernement du Québec, en concertation avec la municipalité, pourra tenir ultérieurement une annonce publique pour la présente aide financière. Pour toute question à cet égard, vous pouvez consulter la direction des communications avec l'adresse courriel des communications au mamash. Pour obtenir d'autres informations sur le PRABAM, je vous invite à communiquer avec la Direction générale des finances municipales et des programmes au 418-691-2010 ou par courriel au programme.dgfmq@commercialmamash.gouv.qc.ca. Finalement, je vous rappelle l'importance de respecter les lois, règlements et normes en vigueur pour l'utilisation de la présente aide financière qui contribuera à améliorer l'état des bâtiments municipaux et les services à la collectivité, ainsi qu'à relancer l'économie locale et régionale au profit de tous les citoyens du Québec. Je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, l'expression de mes meilleurs sentiments, signé par la ministre André Laforêt. Donc, ça me prendra une proposition pour le dépôt de la lettre.
Proposé. Joanne Dion.
Proposition de Mme Dion. Est-ce que c'est unanime?
Oui.
Oui.
Parfait. Ensuite, en point 9, nous avons l'approbation du budget 2022 de l'Office d'habitation de la Matanie, le numéro d'ensemble immobilier, numéro 2273. Est-ce que tu en fais lecture, Yves, ou je
m'en écoute? Oui, j'en fais lecture. Total des revenus pour 50 090. Total des dépenses, administration, 11 518. Conciergerie et entretien, 15 623. Énergie, taxes, assurance, sinistre, 21 416. Remplacement, amélioration, modernisation, 5 000. Financement, 47 123. Service à la clientèle, 2 658. Pour un total des dépenses de 103 338. C'est un déficit, les revenus moins les dépenses, un déficit de 53 248. Contribution, 90 % par la Société d'habitation du Québec du déficit, 47 923. Puis la municipalité, 10 % du déficit, 5 325, qui est la contribution municipale.
Donc, ça va me prendre une proposition.
Joanne Deschaines.
Proposition de Mme Deschaines. Est-ce que c'est unanime?
Oui.
Parfait, merci. Ensuite, en point 10, nous avons la campagne provinciale Ville et municipalité contre Radon 2021-2022 par l'Association pulmonaire du Québec. Je vous fais lecture de la lettre reçue qui est adressée à M. Chassé, la municipalité de Saint-Félicité. C'est une lettre qui a été reçue le 21 janvier 2022. Donc, l'objet est le radon domiciliaire tue 1000 Québécois chaque année. Donc, bonjour M. Chassé. Pour une sixième année consécutive, l'Association pulmonaire du Québec, la PQ, en collaboration avec Santé Canada, sollicite votre participation à la campagne Ville et municipalité contre le radon. Donc, le but est principalement de sensibiliser vos citoyens aux dangers bien réels que le radon représente pour leur santé. Rappelons brièvement que le radon est un gaz souterrain radioactif qui s'infiltre dans les bâtiments sans égard à la géologie du sol ni à l'âge ou au type de fondation. Inodore, incolore et sans goût, il est responsable de 1000 décès par cancer du poumon au Québec annuellement, étant la première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs. Une action concertée contre le radon impliquant les villes et les municipalités du Québec est impérative. Nombreux sont les citoyens inquiets par la présence du radon et des dangers associés à une exposition au-delà de la Directive nationale de la santé de 200 BQ par mètre cube. Et encore plus nombreux sont ceux qui ignorent tout simplement l'existence du radon. Toutefois, nous avons constaté un manque flagrant d'informations concernant les dispositions reconnues et faibles pour mesurer le radon, ainsi que les mesures d'atténuation, dont le type de travaux et les coûts associés. Les mesures du radon effectuées par les Québécois et cumulées au cours des 15 dernières années permettent d'affirmer que 17 % des résidents du Québec dépassent les directives nationales sur le radon et qu'une infime minorité effectue des travaux d'atténuation nécessaires à la protection de leur santé. Par ailleurs, l'Association pulmonaire du Québec souhaite vous informer que vous informiez vos citoyens qu'une plateforme est en ligne sur notre site web, pardon, donnant accès aux données de mesure du radon et de leur secteur ainsi que leur région. Nous espérons que l'accès à ces données permettra de déboulonner, entre autres, le mythe de risque de zones à risque relatifs au radon. Tous les matériels promotionnels numériques afin de soutenir la campagne et conscientiser vos citoyens vous sera fournis gratuitement. Bannière pour écran, calendrier médiatique pour réseaux sociaux, articles pour blog et site Internet, capsules vidéo informatives, témoignages, signatures courriel et autres. Notamment, nous vous suggérons d'effectuer des publications via les médias sociaux de votre municipalité, Twitter, Facebook, Instagram ou autres, à l'aide du calendrier ou des visuels fournis. De diffuser un affichage numérique fourni sur les écrans de vos centres culturels, sportifs et communautaires, d'afficher un bandeau web de sensibilisation sur le site Internet de votre municipalité, de joindre la signature courriel arborant fièrement votre participation à la campagne. Pour toute information relative à la campagne Ville et municipalité contre le radon ou encore si vous souhaitez vous procurer des formats imprimés de matériel éducatif, veuillez nous contacter au santé environnementale à commercial poumonquebec.ca au 514-287-7400 poste 237 ou sans frais au 1-888-POUMON-9. Dans l'espoir d'une réponse favorable de votre part, nous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués. Donc, il y a un code QR pour accéder pour se joindre à la campagne. Donc, c'est signé par Mme Dominique Massy, directrice générale de l'Association pulmonaire du Québec, et Mme Isabelle Lampron, gestionnaire régionale de santé environnementale et de Santé Canada. Donc, ça va me prendre une proposition pour le dépôt de la lettre reçue. Et bien sûr, nous allons diffuser l'information sur les réseaux sociaux et dans le petit journal.
Ce qui est demandé aussi, c'est la campagne d'adhésion au montant de 100 $ pour les municipalités qui ont 2500 habitants et moins.
C'est pas ça. C'est pas
non, c'était l'autre, ça, les affaires de loisirs.
Ah, oh, c'est les affaires, excusez, c'était dans le même dossier.
Ouais, non,
excusez, le DG, il est tard.
Il n'y a pas d'adhésion, il faut juste, on peut avoir du matériel promotionnel gratuitement si on en fait la demande.
On va faire la demande pour ça.
Okay. Moi, je vais proposer qu'on diffuse l'information puis le dépôt de la lettre.
Donc, j'ai une proposition de Jean-Sébastien. Ça convient à tous, c'est unanime?
Oui.
Parfait, ouais. Merci. Ensuite, en point 11, nous avons l'appui au dossier de financement des travaux sylvicoles dans le cadre de l'épidémie de la tordeuse du bourgeon de l'épinette. Nous avons un projet de résolution qui se lit comme ceci. Modèle de résolution pour les remercier les municipalités. Soutien aux demandes de partenaires de la table de concertation sur les forêts privées du Bas-Saint-Laurent. Considérant l'importance de la filière forestière pour le développement social et économique du Bas-Saint-Laurent et l'occupation dynamique de son territoire, considérant que le Bas-Saint-Laurent a toujours été un précurseur dans le déploiement des stratégies d'aménagement sylvicole novatrices et performantes qui ont largement contribué à la prospérité économique du Québec, considérant que le Bas-Saint-Laurent compte 50% de forêts privées sur son territoire et cette dernière fournit au moyen de 20% de la totalité du bois de forêts privées mobilisé au Québec à chaque année. Considérant que ces forêts privées sont réparties sur l'ensemble du territoire qui couvre 8 MRC, comptant 114 municipalités sur plus de 22 000 km². Considérant que les impacts importants de l'épidémie de la tordeuse du bourgeon de l'épinette fait ravage sur les forêts du Bas-Saint-Laurent, alors que la superficie affectée a cru de 23% dans la dernière année, passant de 1 316 999 acres à 1 621 860 acres. Entre 2020 et 2021, considérant que la région du Bas-Saint-Laurent, 79% de superficie de forêts privées ont subi au moins une détérioration depuis 2012 et que d'importantes superficies ont atteint un seuil de défloration cumulative montrant des signes de mortalité. Considérant que la concentration actuelle de l'épidémie dans les forêts de l'est de la région, considérant l'urgence d'intervenir dans les zones les plus touchées par l'épidémie pour récupérer les bois qui seraient autrement perdus et conséquemment d'engager une part de plus en plus importante de budget d'aménagement pour effectuer ces récupérations de la remise en production de ces sites. Donc, considérant que les sommes octroyées dans le cadre de le programme existant, ne suffisent pas pour à la fois et en même temps récupérer et remettre en production les peuplements affectés et réaliser les autres travaux d'aménagement sur la stratégie d'aménagement régional, à savoir les éclaircissements commerciaux de plantations de jardinage et d'érablières. Considérant que cette situation diminuera de façon drastique la capacité de mobilisation des bois au Bas-Saint-Laurent, puisque les volumes produits dans le cadre des travaux sylvicoles passeront de 813 253 m³ en 2019-2020 et à 260 652 m³ en 2023-2024. Considérant l'importance d'assurer un approvisionnement constant, prévisible, suffisant et de qualité aux industries de la région, considérant que les travaux d'aménagement représente une part importante des activités économique des producteurs, travailleurs et entrepreneurs forestiers de la région et que leur addiction entraîne déjà une perte importante pour eux, considérant que la diminution des activités d'aménagement et effet démobilisateur sur les producteurs, la main-d'œuvre et les entrepreneurs forestiers, à un moment donné, il est primordial pour ce secteur de demeurer attractif et où le Bas-Saint-Laurent déploie un projet pilote unique au Québec sur la rémunération des travailleurs forestiers de 3,5 millions de dollars. Pour justement assurer la rétention, le recrutement de cette main-d'œuvre. Considérant que cette étude réalisée en 2020 par la firme Price Waterhouse Cooper, chaque dollar investi dans les industries forestières rapporte 150% en taxes et redevances perçues par le gouvernement, tout en soutenant l'occupation dynamique du territoire. Considérant la nécessité de maintenir les travaux d'aménagement de la forêt privée malgré l'épidémie qui sévit pour protéger l'investissement des forêts, Considérant que le premier ministre du Québec a clairement indiqué sa volonté de maximiser l'impact économique de la filière forestière dans les stratégies de développement économique du Québec et le manque de soutien financier pour optimiser les productivités dans la forêt bolorancienne compromet l'atteinte des objectifs formulés par le gouvernement, considérant que les réalisations des travaux d'aménagement prévus, combinés à la récupération et la remise en production des peuples affectés, peuplement affectés, permettraient d'accroître le volume des bois mobilisés au Bas-Saint-Laurent et de transformer une situation critique en opportunité d'affaires, considérant que les partenaires de la table de concertation sur les forêts privées du Bas-Saint-Laurent ont présenté des solutions chiffrées et concrètes pour redresser la situation et maximiser les contributions de la région à la stratégie nationale de la production du bois, considérant que les partenaires de la table de concertation sur la forêt privée du Bas-Saint-Laurent ont multiplié les démarches et les représentations auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs sans obtenir de réponse satisfaisante à leurs propositions. Il est unanimement résolu sur proposition 2 et appuyé par de demander au gouvernement du Québec une aide immédiate de 2 millions de dollars pour consolider la filière forestière bolorancienne et réaliser un minimum de travaux d'aménagement en forêt privée de 2021-2022. Demander au gouvernement du Québec une majoration moyenne de 4,7 milliards du budget régional pour permettre la récupération de la remise en production des peuplements affectés tout en maintenant l'investissement dans les travaux d'aménagement dans les 4 années suivantes, 2022, 2023 et 2025-2026. Demander au gouvernement du Québec d'inscrire la majoration du budget régional d'aménagement forestier en forêt privée du Bas-Saint-Laurent dans le peuplement dans le prochain budget provincial, de transmettre une copie de la résolution au ministère de la Forêt, de Faune et Parc, M. Pierre Dufour et en tout cas le premier ministre du Québec, M. Pascal Bérubé, la ministre Marie-Ève Proulx, Denis Tardy, et tous les autres élus qui participent à ça. C'est joint aussi un tableau descriptif de tout le détail du financement. Donc, ça me prendrait une proposition pour l'appui au dossier de financement des travaux sylvicoles.
Proposé, Joanne Dion.
Proposition de Joanne Dion, ça convient à tous?
Oui.
Oui.
C'est unanime?
Oui.
Oui.
Parfait. Ensuite, en point 12, nous avons l'adoption du rapport de l'enseigne pour le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la MRC de la Matanie. Tout le monde en a reçu copie et en a pris connaissance. Ça me prendrait une proposition.
Proposé.
J'ai une proposition de...
Réginald.
De Joanne?
Réginald.
Réginald, excusez, c'est parce que mon écran n'était pas sur vos visages. Donc, Réginald, professeur Réginald, donc c'est unanime?
Oui.
Oui.
Ensuite, en point 13, demande d'autorisation à fin autre que l'agriculture, une demande de CPTAQ par M. Émilien Simard, lot visé 3 169 160 et le 3 169 109 du cadastre du Québec. Est-ce que Yves, tu veux donner une petite explication?
Oui, je vais donner la nature du projet. Excavation Émilien Simard Incorporé s'adresse à la CPTAQ afin de poursuivre les activités autorisées au dossier 410-331. Pour une durée additionnelle de 10 ans, soit l'exploitation d'une gravière et de son chemin d'accès sur un terrain d'une superficie d'environ 1,7 ha, correspondant à une partie des lots 3 169 109 et 3 169 160 du cadastre du Québec à Sainte-Félicité dans la MRC de la Matanie. Ça résume la nature du projet.
Donc, ça me prend une proposition. Oui, monsieur Fidelio mentionne qu'il sera-t-il vu les liens familiaux.
Ben, moi, je peux proposer.
Je vais proposer, là, Jean-Sébastien.
Okay. Une proposition de monsieur Jean-Sébastien, avec le retrait, bien sûr, de monsieur Fidelio pour ses liens familiaux. Donc, c'est unanime pour les opens?
C'est majoritairement,
Majoritaire. Parfait, merci. Ensuite, en point 14, demande d'aide financière au député M. Pascal Bérubé pour les projets de travaux d'asphalte saison estivale 2022. Donc, ça nous prend une résolution pour faire une demande d'aide financière pour nos travaux d'asphaltage. Cette année, on en a prévu pour au minimum 200 000 $.
Est-ce qu'on demande, comme à chaque fois qu'on faisait, on demandait 50 000 $ au député?
Oui.
On va le préciser dans la résolution.
Oui, c'est correct.
Oui.
Ça me prend une proposition pour le montant.
Proposé.
Proposition de M. Desrosiers. Ça convient, c'est unanime?
Oui.
Parfait. Ensuite, en point 15, autorisation pour le prélèvement d'eau souterraine pour alimentation en eau potable des puits municipaux et construction d'une nouvelle usine de traitement d'eau potable de la municipalité de Saint-Félicité par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, je vais vous faire la lecture de les deux autorisations. Je les ai dans le même fichier. Donc, j'ai l'autorisation ici reçue le 3 février donc pour la construction de nouvelles usines d'eau potable. Madame, monsieur, à la suite de la demande d'autorisation du 27 janvier 2021, reçue le 11 février 2021 et complétée le 18 janvier 2022, j'autorise conformément à l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement, la RLRQ, chapitre Q2, le titulaire mentionné, si après réaliser le projet comportant les activités décrites ci-dessous. Mise en place de conduites de refoulement d'un diamètre de 50 mm et d'une longueur totale de 55 mètres reliant les deux puits, PP1 2008 et PP3 2008 à la chambre des vannes. Mise en place d'une chambre de vannes de puits en béton préfabriqué d'une dimension de 2500 mm par 1500 mm, ainsi qu'à l'installation d'une conduite de drainage dans la chambre des vannes d'un diamètre de 100 mm et la longueur de 17 mètres. Un empiètement d'une superficie de 1,2 m² est prévu à l'endroit du point de rejet vers le milieu récepteur. Mise en place d'une conduite d'eau brute d'un diamètre de 100 mm et d'une longueur totale de 260 mètres reliant à la chambre des vannes des puits à la nouvelle usine de production d'eau potable. Un segment de 60 mètres de cette conduite sera installé par forage directionnel sous le ruisseau Savard. Mise en place à l'intérieur de la nouvelle usine de production d'eau potable d'un système de désinfection par hypochloride de sodium permettant l'enlèvement de 4 logs, 99 % de virus, et incluant deux pompes d'injection électromagnétique qui fonctionneront en alternance, les deux pompes d'injection électromagnétique auto-dégazantes, à membrane permettant un dosage hypochlorite de sodium à très faible débit, soit de 0 à 2,1 litres/heure. Lors d'un bon niveau dans les réservoirs d'hypochlorite, en tout cas le niveau de chlore, finalement. De sodium, un témoin lumineux s'allume sur les pompes doseuses. Installation d'un contact. Je suis en train de tout vous résumer, finalement, le projet en entier. Je vais juste poursuivre. Attendez un peu. En cas de divergence avec ces documents, l'information contenue aux documents les plus récents prévaudra. Le projet pourra être réalisé et exploité conformément à ces documents. La présente autorisation doit se lier avec la ou les autorisations suivantes qui concernent le même projet, donc l'autorisation aussi de puiser dans les puits, qui est la 40-21-05-776, délivrée le 3 février 2022 aussi. En outre, cette autorisation ne dispense pas le titulaire d'obtenir toute autre autorisation requise par la loi ou règlement, le cas échéant. Donc, c'est signé par le ministre Marco Bossé. Pour le ministre, par Marco Bossé, directeur général de l'analyse et de l'expertise du Bas-Saint-Laurent. Donc, ça me paraît une proposition pour le dépôt des autorisations.
Proposé, Joanne Dion.
Proposition de Mme Dion. Est-ce que c'est unanime?
Oui.
Parfait, merci.
Ça comprend aussi l'autorisation pour le prélèvement d'eau souterraine.
Donc, oui. On prend une proposition pour les deux?
Non, une seule pour les deux, ça va être correct.
C'est bon.
Oui.
Donc, on poursuit en point 16, l'adhésion pour l'Association des professionnels en loisirs municipaux du Bas-Saint-Laurent, l'APLM du BSL. Donc, on a discuté en réunion de travail tantôt que nous n'adhérons pas à cette association. Donc, ça me paraît une proposition en ce sens.
Proposé.
Proposition d'original, c'est bien ça?
Oui. Je l'ai proposé, oui.
Parfait. Est-ce que c'est unanime?
Oui. Oui.
C'est unanime. Donc, nous n'allons pas adhérer à l'Association des professionnels en loisirs du Bas-Saint-Laurent. Ensuite, en point 17, une demande de terrain de 45 mètres par 40 mètres par le club Le Phénix de Sainte-Félicité. Donc, ce qui était discuté en réunion de travail, c'était de proposer le terrain qui était situé finalement du côté est de la patinoire, c'est l'ancien, où est-ce qu'il y a présentement le ring de chevaux. Donc, bien sûr, sous certaines conditions, là, que le terrain n'est pas donné, mais bien c'est un terrain qu'ils vont pouvoir faire l'utilisation. Et aussi, il avait été discuté en réunion de travail que tout l'investissement qui sera fait par le club au niveau du terrain. Si jamais le club est dissous, l'investissement ne sera pas remboursé au club. Le tout deviendra la propriété de la municipalité. Est-ce que j'ai bien résumé ce qu'on a discuté?
Oui.
Donc, ça me paraît une proposition.
Joanne Deschaines? Ah, Christine? Peu importe.
C'est qui? Je vais y aller avec Madame Deschaines.
Lequel? Joanne?
Joanne.
OK.
Donc, la proposition de Joanne Deschaines, est-ce que c'est unanime?
Oui.
Parfait, merci. Ensuite, en point 18, j'ai une demande de cessation en regard d'une partie de l'emprise de la route 132 par Mme Esther Otis et M. Alain Girard. Attendez quelques minutes. Donc, j'ai ici une lettre qui s'adresse à... Attendez, je suis sûr que je lis la bonne lettre. OK, c'est bon. Qui s'adresse à la municipalité de Sainte-Félicité. Donc, M. le maire, Mme, Messieurs les conseillers, la présente est pour vous transmettre une demande de cessation en regard d'une partie de l'emprise de la route 132 contiguë à notre terrain actuel. Pour faire suite à notre démarche auprès du ministère des Transports, ceux-ci consentent à réduire l'emprise sur le lot 3 169 947 du cadastre du Québec en conservant du côté nord de la route 18,3 mètres de centre, voire en annexe le croquis de la lettre du 11 janvier 2022 envoyée par M. Christian Damour, ingénieur au ministère des Transports. Tous les frais découlent de cette cessation seront assumés par nous. Nous désirons transférer une partie de ce terrain à notre enfant afin qu'une construction soit possible dans le futur. Actuellement, ce n'est pas possible sans cette cessation, car nous désirons respecter les lois de la bande riveraine du Québec. Nous avons l'espoir d'une décision favorable de votre part. Nous vous remercions de votre attention et nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers, nos meilleures salutations. C'est signé par Madame Esther Otis et Monsieur Alain Girard. Donc, j'ai le courriel joint aussi là, du ministère des Transports daté du 19 janvier 2022 qui parle que suite à l'analyse de la demande concernant l'acquisition de la partie de l'emprise de la municipalité dans la partie d'emprise de la route 132 de la municipalité de Sainte-Félicité, le ministère des Transports consent à réduire son emprise sur le lot 3 169 647 du cadastre en conservant du côté nord une route de la route 18,3 mètres de la ligne du centre vis-à-vis du point A, B et C, voire le croquis. Toutefois, puisqu'il s'agit d'une partie d'emprise de la route 132, le ministère vous informe qu'il doit procéder par transfert de gestion à la municipalité de Sainte-Félicité. Ainsi, vous devez préparer par un arpenteur un plan où vous sera indiqué la partie d'emprise faisant l'objet d'un transfert de gestion auquel devra être joint une description technique des équipements de services publics présents sur les parties d'emprise à transférer devront également y figurer. Ces documents, assumer tous les frais, doivent vous être transmis avant le 1er septembre pour le décret de l'automne ou avant le 1er février pour le décret du printemps. Une fois le décret publié dans la Gazette officielle du Québec, la municipalité adoptera une résolution de fermeture et le terrain pourra vous être vendu par acte notarié. Avant de faire préparer les plans demandés, veuillez vous assurer que la municipalité consentira à vous vendre le dit terrain. Donc, si j'ai M. Alain Girard, vous devez aviser l'arpenteur géomètre que vous va dater. Le cas échéant de communiquer avec M. Roger McSwin, arpenteur géomètre dans le module arpentage de la géomatique à Rimouski au 418-727 en vue d'établir les modalités de préparation des documents qui soient conformes aux exigences du ministère. Ceci incluant les transferts des minutes. Pour de plus amples informations, il y a un numéro contacté pour contacter M. Benoît Perron, ministère des Transports. Donc, le tout est signé par M. Christian Damour, ingénieur. Et en copie conforme, il y avait M. Chassé, M. Bruno Desrosiers, chef du centre de service de Mont-Joli, M. Roger McSwin, arpenteur géomètre du ministère des Transports. Donc, il y a un croquis de joint tout ça et une autre copie de la lettre. Je viens de faire la lecture. Donc, si je résume notre discussion, on avait dit que, on a discuté en réunion de travail que nous allons céder le terrain suite à l'autorisation, suite au décret qui sera cet automne ou ce printemps, tout dépendant de la date du dépôt qui sera fait. On prend une proposition. Monsieur Desrosiers. Oui. Donc, c'est unanime?
Oui.
Parfait. Donc, on pourra le confirmer qu'on va lui faire la session en temps et lieu.
Puis, par après, il faut faire, avant de céder, il faut faire la fermeture, adopter une résolution pour la fermeture de l'ancienne route.
Exactement.
Il faut le préciser aussi.
Donc, tu en prends note, Yves.
Oui.
Ensuite, en point 19, nous avons le compte-rendu des représentants municipaux pour les organismes de Sainte-Félicité. Tantôt, à Réunion de travail, nous avons fait chacun notre compte-rendu. Peut-être juste pour le bien de tous, il y a Christine qui a fait un petit compte-rendu au niveau du comité des loisirs, des projets en cours. Peut-être si tu veux juste nous en glisser un petit mot vite fait.
On travaille présentement sur le 40 jours 2022. Les demandes de subventions étudiantes ont été faites. On travaille sur un jeu d'eau. C'est ça. Baseball qui revient cet été aussi. Excusez.
Tout à fait. Merci. Merci, merci Christine. Je pense, Réginald, tu avais des trucs aussi tantôt. Je pense que tu avais quelques points à propos du jardin.
Ben, à propos du jardin, c'est ça. C'est ramener le sujet.
C'est pas les jardins 7-3-3, non?
Le jardin,
il y a 9 000 de grosses roches.
C'est ça, il y a eu 9 000 de grosses roches de données pour une contribution pour la prochaine saison. Au niveau de la licorne, on a une réunion le 16 février. Ça suit son cours, j'ai des contacts.
Bon, j'avais marqué le 19, Réginal.
C'est le 16, 16-19 heures.
16, OK.
À 19 heures.
Le 9 000, c'est pour les jardins 733, pas les jardins communautaires.
C'est les jardins 733, c'est ça. Mm-hmm. Puis pour le reste, c'est pas mal tout. Là. Je vais savoir le 16, ce qui en découle pour les licornes. Puis ils sont au courant que c'est moi qui ai la responsabilité de l'installer. Je travaille avec Joanne là-dessus, là, sur l'endroit. Je pense qu'ils vont y aller sur la placer contre un arbre ou n'importe quoi. Là, ils ont changé les approches là, de planter des poteaux et de les bosser. C'est ça.
Donc, M. Réginal, je pense que Joanne Deschaine, je pense que tu avais un petit quelque chose pour la bibliothèque.
Oui, c'est ça. On a eu une rencontre Zoom avec Joanne Dion puis Yves Chassé avec le groupe. Je vais excuser. Je vais redire comment il s'appelle, avec le réseau biblio du Bas-Saint-Laurent. Et ils nous ont fait des propositions d'offres de services qu'on a décidé d'écouter, d'étudier ça durant une prochaine réunion de travail.
Parfait, merci Joanne. Donc, t'avais-tu des trucs, Madame Joanne Dion?
Non, pas pour le moment.
On avait les locaux que Sébastien était avec nous, là, quand on était...
Oui. Je peux dire un peu ce qui avait été dit. Dans le fond, ben c'est ça, là, une soirée là, durant le mois de janvier, on a fait le tour avec moi, Joanne Dion, Joanne Deschaine, puis avec Yves. On a fait le tour du bâtiment communautaire. Puis c'est ça, dans le fond, il y avait quelques points qui avaient été soulevés là, pour peut-être possiblement. Bénéficier du programme PRABAM là, qui a eu le dépôt de la lettre là, justement ce soir. Donc, il avait été identifié comme les entrées, l'entrée extérieure arrière, plus une porte là, qui devait peut-être être aménagée, les fenêtres à changer, remplacer l'éclairage, certaines places, les planchers étaient possiblement à refaire par endroit. Il avait été aussi soulevé une porte accordéon pour séparer la grande salle au besoin. Là. Aussi peut-être la porte d'entrée principale à remplacer ou à retravailler. Les systèmes de chauffage là, pour avoir quelque chose d'économique là, au niveau du chauffage. Il avait été aussi parlé de l'asphaltage au niveau du stationnement du centre communautaire. Il avait aussi été regardé là, pour le réaménagement des salles là, au niveau du des loisirs. C'est sûr qu'ici, il avait peut-être été identifié, là, ça va peut-être être à rediscuter là, au niveau d'un comité de travail là, au niveau de la municipalité. Là. Donc, peut-être les deux locaux là, dans le fond du bâtiment seraient peut-être alloués à la bibliothèque, une bibliothèque plus adulte, puis une section plus bibliothèque jeunesse. La salle qui est présentement occupée par la bibliothèque avait peut-être été ciblée là au niveau pour une salle de formation ou de réunion là qui est déjà dans le fond du bâtiment. Somme toute, c'est ça qui avait été discuté durant la rencontre du comité là pour les locaux. Puis, c'est ça, au niveau de la corporation de développement, j'ai eu un peu de développement au niveau du dépanneur Sainte-Félicité. Dans le fond, il y avait eu 12 personnes qui avaient donné leur nom pour le comité de démarrage au niveau de la coopérative. Il n'y a pas d'acquéreur privé qui savait... Oui, mais pour le moment, ce qui était privilégié, c'était la coopérative. En tout cas, il y a un comité de démarrage qui s'est formé là à ce niveau-là. Puis, c'est ça, présentement, aussi ce qui avait été mentionné là, par la corporation de développement, c'est qu'elle était en train de produire un plan quinquennal là, sur 5 ans. Pour la corporation de développement. Puis il travaillait aussi sur les jardins 733 là.
Donc, un gros merci Jean-Sébastien pour le résumé.
Moi donc, je veux juste ajouter que pour nous trois là, Jean-Sébastien, Joanne Deschaine et moi, le but de notre visite des locaux, c'est d'aller chercher le plus de subventions possibles pour pouvoir rajeunir et améliorer le bâtiment. Puis ça peut être ailleurs aussi. En tout cas, on va étudier tout ce qu'il y a de subventions pour aller en chercher le plus possible.
Oui, puis c'était aussi en démarche pour avec les demandes qu'on avait eues également, là, les demandes qu'on avait eues où... Les certains organismes qui n'avaient pas nécessairement de local. Là. Effectivement.
Mm-hmm. Donc, un gros merci pour ces résumés. Donc, au niveau de la MRC de la Matanie, en janvier, il n'y a pas eu de sujet qui touchait nécessairement la municipalité de Sainte-Félicité. On va avoir là une rencontre au niveau du service régional incendie au mois de qui va être demain. Le principal sujet, là, ça va être la formation d'un comité là, pour le renouvellement de l'entente. Là. La dernière entente, c'était une entente de 3 ans. On va former un comité plus restreint là, pour commencer à travailler sur la prochaine entente là, l'entente qui prend fin normalement en décembre 2023, mais on ne veut pas la régler à dernière minute. On veut être capable de sécuriser puis de s'améliorer.
Le comité va être formé juste demain?
Le comité va être formé seulement demain, oui, puis ça va être formé... Oui,
pas demain, demain.
On va essayer de varier, puis il va falloir que les membres qui sont sur le comité soient extrêmement disponibles parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de rencontres.
OK.
Mais il risque aussi d'avoir un chef aux opérations ou un pompier là, qui va participer à la démarche aussi. Là. On va voir encore la composition du comité là, avec les gens qui vont être présents demain, qui vont vouloir participer. Mais c'est sûr qu'on ne fera pas... ça va être un comité qui ne sera pas décisionnel, mais un comité qui va faire une proposition au service. Mais ça va travailler mieux à quelques personnes que de travailler en grand groupe pour être capable de renouveler l'entente actuelle. Donc, ça fait le tour des comptes rendus. Donc, on serait rendu au point 20 en divers. En point 20A, j'ai la formation des élus par la FQM qui aurait lieu le 1er et le 2 mars 2022. Ça me prendrait une proposition. Yves, pour l'inscription?
Oui, puis les frais.
Christine.
Proposition de Christine pour l'inscription et pour les frais, c'est bien ça?
Oui, les frais, faudrait peut-être les dire.
C'est 149 $ pour l'inscription.
Donc, 149 $ par personne.
Plus les taxes, bien entendu.
Et c'est une formation obligatoire.
Yes.
Oui, il faut le dire aussi.
Oui. Donc, j'ai la proposition de Christine, c'était unanime?
Oui.
Oui.
Parfait. Ensuite, en point B, 20B, j'ai la liste d'arrière des taxes, Yves.
Oui. En date d'aujourd'hui, on a pour 93 099,81 €. C'est juste le dépôt.
Donc, ça te prend une résolution pour le dépôt oui. de la liste, puis une résolution pour envoyer
pour envoyer un avis recommandé.
Donc, je vais prendre la résolution pour le dépôt de la liste.
Oui.
Proposition de Fidelio. C'est unanime?
Oui.
Oui.
Ensuite, ça me prend une proposition pour envoyer les avis recommandés aux retardataires.
Proposer Jean-Sébastien.
Proposition de Jean-Sébastien, c'est unanime?
Oui.
Parfait, merci. Ensuite, en point 20C, j'ai une demande de soumission installation d'un abri d'hiver pour le bureau municipal. Donc, bien sûr, c'est une demande de soumission et non l'installation immédiate. Donc, ça va nous prendre une proposition, une résolution pour aller chercher des soumissions pour faire l'installation d'un abri d'hiver futur devant le bureau municipal pour réduire la quantité de neige, puis en même temps rendre le tout plus sécuritaire dans les marches d'escalier et la rendre handicapée. Donc, ça prend proposition.
Joanne Deschaine. Joanne Deschaine.
Proposition de Mme Deschaine. Ça convient aux autres membres?
Oui.
C'est unanime?
Oui.
Parfait, merci. Ensuite, en point 20D, une demande de la CPTAQ par M. Pierre Simard.
Est-ce que tu en donnes?
Pour annuler la dernière, puis oui. On va faire une autre.
Est-ce que tu vas donner lecture de la lettre de la CPTAQ, Andrew?
Oui, oui. Avant? Je vais attendre un peu.
Que les gens comprennent mieux aussi pourquoi la décision puis l'annulation. Est-ce que tu veux que j'en donne lecture?
Donne-nous la lecture, j'ai pas ouvert le fichier de celle-là. Okay.
Bonjour, M. Simard. Je suis à l'analyse de la demande d'autorisation de ces citernes objets et j'aimerais vous informer des informations suivantes. Veuillez prendre connaissance de la lettre jointe au présent courriel qui vous informe que les droits acquis qui pourraient exister sous la propriété résidentielle de M. Lacasse devraient être reconnus de façon formelle avant de pouvoir étudier la demande d'autorisation. Pour ce qui nous concerne, la municipalité, je constate à la résolution municipale que la demande vise des parties des lots 3 168 822 et 3 168 823. Toutefois, selon le plan et les informations au formulaire, la demande d'autorisation vise plutôt deux parties du lot 3 168 822. Une nouvelle résolution municipale corrigée doit être transmise afin de poursuivre l'analyse de la demande. La demande est donc suspendue pendant 30 jours pour le dépôt d'une vérification de droit, puis jusqu'à sa conclusion ainsi qu'au dépôt de la résolution municipale corrigée. Cordialement, M. Louis-Philippe Bédard, analyste régional de la CPTAQ. Fait que la première chose qu'on va faire, le conseil municipal, c'est annuler la résolution numéro 2021-1237.
On prend une proposition pour l'annulation.
Christine.
Proposition de Christine. Est-ce que c'est unanime?
Oui.
Oui. Oui.
Parfait, merci. Ensuite, Yves, ça te prend une proposition pour le...
Je vais en donner lecture, la nouvelle résolution.
Parfait.
Considérant la demande d'autorisation formulée par M. Pierre Simard auprès de la CPTAQ afin de vendre à M. Johan Lacasse une partie de l'eau contiguë, l'eau visée par la demande, c'est le 3 168 822 du cadastre du Québec à un emplacement résidentiel pour le rendre conforme au règlement de lotissement de la municipalité dans le but éventuellement de refaire l'installation septique et donner un meilleur accès à l'arrière de la propriété. Considérant que la demande formulée par le demandeur est conforme au règlement de zonage en vigueur, en conséquence, elle est proposée par et résolue que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal de la municipalité de Sainte-Félicité appuie la demande d'autorisation auprès de la CPTAQ de M. Pierre Simard afin de vendre à M. Johan Lacasse une partie du lot contigu, lot visé par la demande de 3 168 822 du cadastre du Québec à un emplacement résidentiel pour le rendre conforme au règlement de lotissement de la municipalité dans le but de refaire l'installation septique et de donner un meilleur accès à l'arrière de la propriété. Donc, c'est la nouvelle résolution qu'on doit adopter.
Proposé.
Proposition de M. Desrosiers. Ça convient, c'est unanime?
Oui.
Oui.
Parfait, merci. Ensuite, en point 20, petit e, rencontre de travail du conseil municipal pour certains dossiers à traiter. Donc, nous avons discuté tantôt qu'on avait proposé le 28 février. C'est bien ça, les autres membres du conseil?
Oui.
À 18h30.
À 18h30, donc ça prend une proposition.
Christine.
Oui. Je vais prendre la proposition de Christine. Merci, Fidelio. C'est unanime?
Oui.
Ensuite, la levée de la séance en point 21, ça va prendre une proposition.
Joanne Deschaines.
De Joanne Deschaines, c'est unanime, bien sûr?
Oui.
Oui.